Eh bien, nous voici avec Bérénice Levet, bonjour.
Bonjour.
Voilà, pour la deuxième partie de ce pour et contre la bande dessinée, car Bérénice, vous m'avez un jour appelé en me disant qu'il fallait absolument que vous puissiez dire du mal de la bande dessinée, et ça vous paraissait très bien de le dire à mon micro, étant donné que je fais profession de la défendre depuis, mais je crois que mon premier article était en 92, et c'était pour défendre le Batman de Frank Miller.
D'accord. Voilà.
J'ai commencé par il est vrai cri d'amour pour la BD.
Voilà, non mais il est vrai que si je vous ai proposé cela, c'est que j'ai énormément d'estime pour vous et je voyais dans l'incorrect que la rubrique bande dessinée vous revenait et par conséquent j'avais très envie d'avoir cette discussion avec vous. Plutôt que de monologuer, j'ai envie que l'on m'oppose des arguments puisque je suis assez sûre de mon fait dans ma critique. On verra que... Elle n'est pas généralisée, elle concerne un certain type de bande dessinée.
C'est vrai.
Mais j'étais vraiment très intéressée d'entendre des arguments qui la défendent et la défendent sur le terrain où moi je l'accable.
Parce que donc vous l'accablez, c'est vrai, sur deux choses précises qui sont la biographie et l'adaptation. Donc la biographie, c'est raconter l'histoire de quelqu'un qui a véritablement existé en bande dessinée ou adapter en bande dessinée une œuvre littéraire. On va citer tout de suite la catastrophe des catastrophes, qui est l'adaptation de Proust en bande dessinée,
qui est
une pure bouse. Vous me pardonnez l'expression, mais évidemment j'ai des contre-exemples et je voulais avant de vous dire mes arguments, que vous puissiez dire pourquoi spécifiquement, par exemple, la biographie vous paraît être quelque chose qui ne peut pas être traité en bande dessinée.
Alors, déjà, je vais quand même avoir un propos plus général concernant la bande dessinée. Malgré tout, quelle qu'elle soit, c'est que contre Jack Lang, qui affirmait que donc la bande dessinée était un art, et sans doute avez-vous en mémoire François Mitterrand, qui longtemps avait été réticent, mais lorsque, au bout de son premier septennat, il fait de nouveau campagne, il revient sur le ministère de la Culture et sur Jack Lang, et il dit, il se flatte d'avoir instauré, établi le festival d'Angoulême, et il dit, donc Jack Lang avait raison, tout est culture. Bon, donc je trouvais déjà que venant d'un homme comme François Mitterrand, qui malgré tout savait que tout n'est pas culture, c'était spécialement coupable. C'est une grande trahison des clercs. Et puis, donc, la bande dessinée, en règle générale, j'aimerais qu'elle reste malgré tout à sa place. Et notamment à sa place, ça veut dire qu'elle ne pénètre pas, par exemple, l'espace scolaire. Parce que c'est un des grands problèmes, c'est que certains titres de bande dessinée sont inscrits dans les manuels de littérature, comptent parmi les ouvrages de référence, et dans le domaine qui est le mien et que je connais, la philosophie, je sais très bien qu'il y a des professeurs qui prennent appui précisément sur la traduction donc de Platon ou d'autres philosophes en bande dessinée, ou même l'introduction à des problématiques philosophiques par le truchement de la bande dessinée, et cela, je le condamne absolument. Pourquoi ? Parce que je considère, et alors la chose est encore plus grave à l'heure de l'intelligence artificielle, c'est que le rôle de l'école Et celui de la culture en général, c'est que la culture n'est pas simplement une question d'objets, d'œuvres étudiées. La culture, c'est d'abord une question de disposition. Et que par conséquent, nous avons, nous, en tant que professeurs de littérature ou de philosophie, et en tant que professeur en règle générale, à former des facultés qui sont requises précisément pour accéder aux grandes choses, c'est-à-dire la patience, la disponibilité, l'attention, l'acceptation des efforts. Or, tout cela ne me semble pas, toutes ces dispositions ne me semblent pas être demandées. Donc, formé, développé et cultivé par la bande dessinée. Et donc, dans un des textes, c'était dans le premier numéro de l'Incorrect, mon premier article était consacré à la bande dessinée. Je l'ai relu puisque ça fait une dizaine d'années, un peu plus, et je ne me souvenais pas même que, à l'époque, Daniel Picouli, qui est sans doute bien oublié aujourd'hui, mais le concédait tout à fait, au moins la bande dessinée, vous ouvrez, vous savez tout de suite si vous êtes de plein pied avec. Alors que, évidemment, que ce soit Proust, mais même Balzac, mais même Flaubert, il faut leur accorder du temps pour entrer dans leur univers, et on ne décide pas d'un simple mouvement si c'est une œuvre pour nous ou non. Donc, vous voyez, pour moi, c'est déjà cela, l'énorme problème. Alors, justement, je vous ai apporté un passage que je trouve tout à fait extraordinaire et qui m'accompagne et que je lis toujours à mes étudiants, de Valérie dans « Regard sur le monde actuel », dans le texte consacré à la liberté de l'esprit. Valérie dit très, très, très exactement la chose. C'est qu'il dit que qu'est-ce qu'une culture ou une civilisation ? Elle est d'abord constituée par des choses, des objets matériels, livres, tableaux, instruments. Mais il dit... pas plus qu'un lingot d'or, un hectare de bonne terre ou une machine ne sont des capitaux en l'absence d'hommes qui en ont besoin et qui savent s'en servir. Eh bien, c'est la même chose pour les grandes œuvres. Nous risquons, en fait, de voir advenir une humanité qui n'a plus besoin. Donc, les grandes œuvres, le matériel de la culture, dit-il, exige l'existence d'hommes qui aient besoin de lui, qui puissent s'en servir, c'est-à-dire d'hommes qui aient soif de connaissance et de puissance de transformation intérieure, soif de développement de leur sensibilité, et qui sachent d'autre part acquérir ou exercer ce qu'il faut d'habitude, au pluriel, de discipline intellectuelle, de convention et de pratique, pour utiliser l'arsenal de documents et d'instruments que les siècles ont accumulés. Si bien que, vous voyez, c'est là le cœur de l'inquiétude qui est la mienne, de voir absolument tout traduit dans la langue de la bande dessinée, des bulles et des images, parce qu'il y a des facultés qui ne seront plus formées et développer. C'est le premier point, sans doute le plus important.
Alors, j'ai retenu attention, patience, effort. Je vois qu'il y a certaines bandes dessinées qui font 400 ou 500 pages dans lesquelles on a besoin de rentrer avec un certain effort, surtout quand le langage graphique n'est pas immédiat. Je pense à une œuvre en particulier. Alors, vous me direz, mais ce n'est qu'une œuvre, mais de même quand Valérie parle des grandes œuvres, il parle du Timée de Platon et il ne parle pas du dernier journal du Monde, du dernier numéro paru, et il ne parle pas d'un roman de Bernard-Henri Lévy ou d'Annie Ernaux. Voilà, il parle de choses qui sont un peu plus conceptuelles. Voilà, ici, de Richard McGuire, est une bande dessinée assez intéressante. C'est un auteur qui est né en 1957, qu'il a écrite. C'est une pièce qui est sans doute un living room. Et donc, la bande dessinée est muette et sur plusieurs centaines de pages, on voit... à partir du même point de vue, depuis les Diplodocus jusqu'aux années 90, cette pièce qui change. Évidemment, la maison n'existe pas au temps des Diplodocus, elle se construit, elle n'est qu'une cabane, elle devient quelque chose qui évidemment évolue jusqu'au XXe siècle, avec des gens qui y vivent ou qui y meurent, la maison est détruite et reconstruite, et sur cette durée, sur cette longueur, avec ce vocabulaire graphique, avec d'ailleurs un usage particulier des couleurs, avec ces codes qu'on est obligé d'apprendre, on voit bien que la bande dessinée n'est pas juste une espèce d'adultération d'un message plus intelligent. Je voudrais tout de suite parler de deux ou trois autres albums. La revue dessinée Abominable Revue de Gauche, qui malgré tout publie très bons reportages, a consacré une bande dessinée, là aussi assez épaisse, de plus de 100 pages, à l'histoire du remembrement, avec là aussi une véritable histoire, un véritable propos. Si j'avais lu un ouvrage sur le remembrement sans avoir deux ou trois des illustrations qui l'ornent, aurais-je aussi bien compris deux ou trois concepts? Je ne suis pas certain. Et enfin, par exemple, la bande dessinée de Giancovici et Blin sur l'énergie a le mérite, à travers justement cette alliance incroyable du texte et de l'image, à expliquer un certain nombre de concepts, d'accord, à montrer un certain nombre de choses qui, là aussi, peuvent très bien être exprimées autrement. Ah oui. Mais...
Alors, non, là, je vous le concède, parce qu'à ce moment-là, on pourrait très aisément m'objecter que la peinture n'est pas un art ou ne peut pas être mis...
En tout cas, toute la peinture.
Voilà, que Nicolas Poussin ne pourrait pas être mis à la même hauteur que Corneille. Or, évidemment que si. Et donc, je ne conteste absolument pas. Et là, tout ce à quoi vous faites allusion, ce sont références plus qu'allusions. Ce sont des œuvres originales, en effet. C'est pas, ce n'est pas une version édulcorée ou simplifiée. C'est pas un effort de traduction. C'est essayer, au contraire, et par la vertu de l'image, de formuler quelque chose que peut-être les mots ne parviennent pas à atteindre.
Donc, ni les mots, ni l'image fixe.
Voilà.
Là, parce que exactement. Ici, c'est la séquentialité
qui
en fait
plus.
Toute la valeur.
Voilà. Donc ça, là-dessus, je n'ai pas d'objection. Après, je ne suis pas... Alors, la raison pour laquelle je pense que la bande dessinée, toutefois, même sous cette forme, par exemple, si on prend le livre sur le climat, enfin sur la bande dessinée de Giancovici et Giancovici, Je ne considère pas malgré tout qu'elle a pénétré dans l'enceinte d'un établissement scolaire, parce que je veux croire que la bande dessinée appartient plus aisément à l'univers de la jeunesse et qu'elle n'a pas tant besoin de nous, adultes et professeurs, pour l'y escorter. Même si elle réclame des efforts, mais je pense malgré tout qu'un lecteur intéressé peut de lui-même s'y orienter. Alors que pour entrer dans un tableau de Poussin, de Nicolas Poussin ou de Rubens, nos étudiants ont besoin de nous. Voyez, je pense quand même qu'il y a une familiarité de ce médium pour la jeunesse, qui lui permet d'y accéder sans qu'un adulte, un professeur, soit l'intercesseur.
Alors, pardonnez-moi, mais je prends par exemple cette autre abomination qu'on appelle la dark romance, donc oui, ces romans pour adolescents, avec généralement deux ou trois suicidaires qui se prennent ou pas pour des vampires et qui et font l'expérience douloureuse de leur puberté. Là aussi, c'est une littérature qui n'a besoin d'aucune médiation. En fait, la bonne bande dessinée, dire comprendre effectivement comment s'articule une planche, comment la case participe ou pas de l'économie de la planche, comment le feuilletage lui-même est un effet rhétorique. En fait, il y a une intelligence. Alors, Thierry Grandstein en a écrit un pavé monumental publié au PUF et qui est tout à fait fascinant sur justement ce vocabulaire précis de la bande dessinée, le phylactère, l'espace intericonique, juste pour désigner la gouttière de blanc entre deux cases, qui existe ou qui n'existe pas. On a au début, quand Rodolphe Töpffer invente la bande dessinée, avec l'idée d'histoire en image, l'affirmation, au contraire, d'un vocabulaire tout à fait original, d'une alliance surprenante et où, là aussi, soit on va lire des bandes dessinées qui sont évidentes et il n'y a aucun problème, soit on lit des bandes dessinées qui sont un peu plus intelligentes. Et le fait, au contraire, on a besoin de cette médiation.
Bien sûr. Non, mais
c'est surtout le terme d'adaptation, je pense, sur lequel
on va y revenir. Voilà. Mais là, quand même, un élément qui. Je veux vraiment insister sur ce que je viens de dire, c'est que je ne dis pas qu'on n'aura pas une plus grande intelligence de l'art, de la bande dessinée, sans un médiateur, mais que nous heurtons pas à la même réticence de la part de la jeunesse, et que par conséquent, l'école étant quand même ayant déjà du mal à remplir sa tâche, c'est-à-dire à apprendre à lire Corneille, Racine, Balzac, Flaubert, je ne pense absolument pas que l'on a besoin d'intégrer la bande dessinée à l'école, parce que il n'y a pas de résistance à lever. Je suis absolument convaincue, par exemple, sans doute l'avez-vous visité ou le projetez-vous, j'ai appris que le musée Tardi venait d'être ouvert. Charge à eux d'établir justement des instituts de la médiation, l'art de la bande dessinée. La jeunesse s'y précipitera. Elle sera pleine de bonne volonté. Donc, à l'école, il nous faut absolument nous concentrer sur les domaines où la jeunesse oppose, malgré tout, le plus de résistance. Voyez ce que je veux dire.
On a l'impression que c'est parce que la littérature, la grande littérature et la philosophie, la vraie philosophies sont difficiles d'accès, que vous voulez que l'école s'y réserve, mais par exemple, l'histoire, là aussi, la grande, la vraie bonne histoire...
J'ai pas nié l'histoire, piliers, c'est la littérature, l'histoire, moi je pense que même plus encore que la philosophie, docteur en philosophie que je suis l'affirme, je pense qu'il n'y a rien de plus urgent que de tout recentrer sur la langue, la littérature et l'histoire. Et puis la philosophie, bah tant pis, on verra après. Mais déjà, si notre jeunesse sortait en possédant sa langue, en étant capable de lire les grandes œuvres de littérature et en connaissant son histoire sur le bout des doigts, pour moi, ça suffirait déjà.
Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une question de degré, parce que la jeunesse n'a aucune difficulté avec la mauvaise littérature, donc c'est pas la littérature en tant que telle. La jeunesse n'a aucune difficulté avec les mauvaises images. J'en range pas la bande dessinée dans les mauvaises images, mais les feuilletons médiocres ou les films stupides. En revanche, la jeunesse a besoin effectivement qu'on l'amène à regarder aujourd'hui Fritz Lang ou les œuvres de Melville. Quand j'ai proposé à ma fille qui l'a accepté par gentillesse familiale et par docilité filiale de regarder un film de Melville en noir et blanc avec des silences de 10 minutes et des plans longs, je crois que je lui ai fait souffrir mal mort.
Je considère que c'est absolument capital de les introduire à ses œuvres, mais précisément, vous êtes son père. Je ne suis pas sûre qu'elle est... À l'école, on va être... On ne doit pas charger l'école de toutes les tâches.
Mais donc, en même temps, cet éveil artistique, si ce n'est pas l'école, qui...
Non,
parce que combien de parents sont capables de donner la grande littérature grand cinéma ?
On ne peut pas me donner la moindre leçon sur ce point, puisque moi, précisément, quand j'enseignais en terminale, je profitais d'étudier, par exemple, le désir. Quand je faisais étudier le désir, j'en profitais pour leur faire écouter l'air de Chérubin dans Mozart, précisément parce que je me disais, d'une pierre deux coups, là, ils verront, Platon nous parle de ce désir erratique, il suffit d'écouter quelques notes de Mozart et le chant de Chérubin et ils comprendront tout de suite ce que Platon veut dire. Donc, évidemment, je les emmenais aussi au musée du Louvre, donc je considère qu'effectivement, c'est notre tâche. La seule chose, je vous dis, c'est que quand bien même, cela étant, je ne me suis pas toujours interdite d'introduire certaines grandes œuvres du cinéma, précisément parce que je suis cinéphile et que j'aime ces grandes œuvres. Donc, il est vrai aussi. Mais je me dis que malgré tout, il y a moins de réticence, même si, vous le dites, un film en noir et blanc, ils vont peut-être être... Mais je crois qu'il est malgré tout plus aisé de leur faire visionner les grands chefs-d'œuvre en étant à leur côté, en les escortant, mais... J'admets aussi qu'il y a de moins en moins d'adultes qui sont eux-mêmes porteurs de cet héritage. Donc, mais là-dessus, même si vous voulez, vous voyez, on va aborder la question de l'adaptation. Un Kafka vu par Orson Welles, il est évident que c'est une lecture, une proposition, une interprétation qui a toute sa légitimité et qui est grande. Hein, donc après, il y a des hiérarchies malgré tout à établir. Mais ma conviction est que la bande dessinée est la chose la mieux partagée et dans le cœur de la jeunesse.
C'est vrai, les ventes de bandes dessinées sont là pour le prouver, oui. mais en même temps, c'est une bande dessinée particulière et c'est pas forcément la meilleure. Ce sont des mangas, mais pas forcément les meilleurs, etc.
Oui,
donc
oui.
On voit bien que là aussi, il y a une espèce de mauvais goût universel
qui est
bien partagé.
Il se trouve, malgré tout, même si je n'ai absolument pas votre compétence, donc je n'y prétendrai pas, mais pour le peu... cela étant, j'essaie quand même de regarder. Je n'en achète pas, mais dans les librairies.
Nous savons que vous êtes honnête.
Dans les librairies, je vais regarder. Donc je ne parle pas comme ça en général sans. Mais quand je vois les bandes dessinées ayant pour thème la philosophie, je suis absolument mais catastrophée par la niaiserie du dessin, l'indigence du trait précisément. Je trouve qu'il n'y a aucun art. Mais pareillement, j'ai pu entendre une journaliste du Figaro pour qui j'ai la plus grande estime et qui est venue faire l'éloge des Minions. Pour moi, là, on entre dans vraiment, mais la laideur et la pauvreté du dessin qui est absolument catastrophique. Donc, si vous voulez, là, on sombre dans quelque chose qui renonce à tout critère de jugement.
Mais je crois que vous avez parfaitement raison d'insister sur, en fait, justement, le défaut de certaines bandes dessinées dites pédagogiques. C'est-à-dire que il y a d'abord une adaptation volontairement simplifiée, parce qu'on ne rentre pas dans Platon sans effort. Et donc, alors on rentre dans Thomas Piketty beaucoup plus facilement, et que Piketty soit en bande dessinée, ça paraît juste légitime.
Même,
on aimerait d'ailleurs que Piketty écrive directement en
bande dessinée.
Voilà, ça permettrait d'économiser une partie du papier. Mais c'est effectivement le fait que on sacrifie le dessin par rapport à la partie textuelle, et que donc on aboutit à un mauvais résultat, c'est-à-dire que au lieu que le dessin soit à la hauteur du texte, l'éditeur choisit un tâcheron qui exécute rapidement.
Surtout, on a on a plusieurs générations désormais qui se sont crues tous. Alors peut-être justement la génération Mitterrand, la génération de Jack Lang, ils se sont tous découverts des talents de dessinateurs. Alors, ils se sont tous mis à dessiner.
Et parfois, c'est atroce.
Mais ce qu'il y a d'épouvantable, consultez Philosophie Magazine tous les mois. Donc, il y a 4 ou 6 pages de bande dessinée. Mais c'est épouvantable. La Croix, l'hebdo La Croix, ils ont toutes les semaines, sur un thème, évidemment, qui plus est, le plus bien pensant qui soit. Mais le dessin, parce que je le lis, alors là, je cherche même pas à comprendre de quoi il retourne. Mais simplement, le dessin est atroce. Mais tous se sont cru autorisés. Alors, en plus, il faut quand même voir que ce monde de la bande dessinée est très investi par l'esprit progressiste le plus redoutable. Hein.
La gauche a triomphé,
la gauche
comme ailleurs.
Ah oui. Donc, mais c'est surtout... parce que, vous voyez, moi qui ne connais pas grand-chose, mais il n'empêche que... Il y avait un trait spirituel chez Goscinny, chez même Gaston Lagaffe. Il y a un mouvement, il y a une dynamique, il y a un génie, voilà, du trait. Je ne vois plus rien de cet homme dans ceux qui traduisent. Hein, alors, j'en reste voilà, à ce
mais,
que je.
Mais voilà, mais Blin, par exemple, lui, a ce génie-là, et on le voit bien dans la diversité des choses. Joshon Garner est un auteur de bande dessinée minimaliste qui a longtemps écrit pour le 1, où il y avait des planches explicatives, donc dans un style minimaliste, mais qui, justement, par le caractère réduit du trait.
Oui, épuré.
Voilà, et donc, avait une espèce de force didactique incroyable. Je voudrais parler d'une autre œuvre qui s'appelle Flatland. Flatland, c'est un roman qui paraît au 19e dans l'Angleterre victorienne, où un être à deux dimensions raconte comment est-ce qu'un jour, il s'est rendu compte qu'il existait des êtres à trois dimensions. Alors, bon, le roman est évidemment irracontable parce que c'est une espèce de fantaisie mathématique et géométrique tout à fait surprenante, qui est une espèce de critique de l'Angleterre victorienne, de la position du protestantisme, en tout cas de la religion protestante, et des rapports de classe. L'adaptation en bande dessinée est une espèce de prodige d'intelligence graphique, justement, parce que il a fallu trouver les équivalents, et d'ailleurs avec une espèce d'heureuse coïncidence. On décrit un monde à deux dimensions dans un espace qui lui-même est à deux dimensions, puisque la troisième dimension, qui est l'épaisseur du bouquin, évidemment, n'existe qu'au moment du feuilletage. Mais c'est quelque chose qui est particulièrement bien vu. En fait, on pourrait presque vous accuser, vous me pardonnerez, c'est rhétorique, de considérer que c'est l'adaptation qui, en tant que telle, est pécamineuse. C'est-à-dire, je prends l'œuvre de Wagner et j'en fais un film, je prends les romans de la Table Ronde et j'en fais Excalibur de Bormann. Je prends n'importe quelle œuvre littéraire, y compris Balzac, que vous citiez tout à l'heure, et j'en fais un film. Par principe, effectivement, on perd quelque chose. Mais dans quelle traduction, en fait, ne perd pas ?
Non, de toute façon, effectivement, je condamne tout autant la version cinématographique. Je pense que Zola ou Balzac, même interprété par Gérard Philippe, ça peut être un bon film, ce n'est pas du Balzac, ce n'est pas du Stendhal. Donc je suis tout aussi sévère avec de toute façon ce passage à l'image. Mais il y a malgré tout un élément supplémentaire qui est une dimension que je trouve quelque peu puérile dans la traduction en bande dessinée de ses œuvres. Mais sans doute parce que le moment que nous vivons fait que les auteurs de bande dessinée ne sont plus à la hauteur, malgré tout, de l'œuvre initiale. Donc c'est même plus une lecture, comme je vous le disais tout à l'heure, en prenant Kafka et Orson Welles, mais mettons, je crois que les Rouges et le Noir, c'est du Claude Autant-Lara, enfin, on a encore quand même des grands cinéastes qui ont un œil, qui ont quelque chose. Je pense qu'il y a aussi cette perte qui est liée à cela, c'est que les dessinateurs et les scénaristes d'aujourd'hui sont incarcérés dans la prison du présent. Donc, de toute façon, projettent sur les grandes œuvres dont ils s'emparent toutes les idoles du présent. Vous voyez, je ne pense pas qu'ils aient cette puissance, malgré tout, qu'on pouvait encore trouver dans le grand cinéma. Donc, mais cela, il n'empêche que, pour moi, le passage, on perd ce qui fait le propre de la littérature, qui est la révélation par le mot qui va dire la chose, par l'intrigue, par le style, par le rythme de la phrase. Tout cela s'est perdu à la faveur de la traduction, aussi bien en film que en bande dessinée. Avec un argument que je tiens pour mes alibis par excellence, qui est de nous dire: mais c'est une première étape, traduisons en bande dessinée, et de la bande dessinée, cela donnera envie au lecteur qui aura aimé d'aller directement à l'œuvre. Ça, c'est absolument faux. Ça, c'est un alibi. Je suis précisément, pour les raisons que j'ai dites au début, c'est que les mêmes facultés ne sont pas sollicitées. Et si vous ne formez plus les facultés requises pour lire Proust, c'est pas parce que, alors qui plus est, la version bande dessinée est catastrophique, mais même elle serait la meilleure qui soit. De toute façon, vous ne passez pas, il n'y a pas de voie de passage de la traduction en bande dessinée à la lecture de Proust. Voilà, parce que, qui plus est, quand on ouvre un roman, il faut avoir cette passion de comprendre, de se dire, voilà, qu'est-ce que le romancier va avoir à me révéler ? Et je ne crois pas qu'il y ait cette puissance de révélation qui soit à l'œuvre dans le rapport à la bande dessinée. Et
il y a quelque chose de sec, dans, si j'ose dire, dans la littérature imprimée uniquement avec des caractères, voilà, où effectivement, on est, il n'y a pas cette amabilité du dessin. Voilà. Mais même chose, quand je regarde une toile de Miro, voilà, je suis obligé de faire un effort pour comprendre ce que signifie cette tache rouge ou cette tache bleue. Voilà.
Alors, vous n'avez même pas d'effort à faire, parce qu'elle signifie sans doute pas grand-chose.
Ouais, je vous sens dubitatif. Je vais profiter du fait qu'il est pile poil 18h59 pour rappeler à nos auditeurs deux choses. D'une part, qu'ils peuvent écrire à courtoisie@rc.fr s'ils ont envie de nous envoyer des questions. Et d'autre part, que c'est très aimable à eux de nous écouter, qu'il ne faut pas hésiter en plus à nous soutenir. Et nous avons reçu aujourd'hui par le courrier une pièce de 2 euros. C'est exactement ce qu'on réclame à tout le monde. 1 euro par mois, 1 euro pour passer l'été. Donc voilà, il y a cette pièce de 2 euros qui est arrivée avec un petit mot qui nous expliquait que c'était pour juillet et pour août. Eh bien, n'hésitez pas, envoyez-nous 2 euros. Alors plutôt, ne nous les envoyez pas par la poche, je pense que ça vous coûte plus cher en timbre que de nous faire, un don à soutenir.rc.fr. Ça nous permettra de continuer à parler de 1000 choses avec Bérénice Levet, par exemple. Dans ce que vous dites, il y a aussi deux choses. D'une part, l'excellence du dessin, et par exemple quand on regarde tel tableau d'un peintre pompier comme Jérôme, où il y a l'ombre des trois croix qui se projette sur le sol, et les gens qui quittent le calvaire, on a là rassemblé en une seule image toute l'histoire qu'on connaît, et donc on est obligé d'élucider, de parcourir le tableau, et évidemment quand on lit des exégèses savantes de tel tableau de Vermeer ou de tel tableau de Poussin, on a juste l'impression qu'il y a deux personnes au bord d'un chemin avec un grand arbre. Non, pas du tout. Il a 1000 choses à comprendre dans la disposition des pierres, etc. C'est déjà quelque chose qui est réservé à une élite qui est capable de comprendre. Poussin lui-même, d'ailleurs, avait quand même peu d'amateurs. Et sans son mécène, il aurait continué à pondre des œuvres qui sont cosa mentale et qui seraient restées, malgré tout, inaccessibles au plus grand nombre et qui, d'ailleurs, le sont encore. Dans la littérature, il y a l'idée que je me jette dans un océan de signes et que peut-être au bout de 50 pages ou peut-être au bout de la première phrase, je serai absolument saisi. La bande dessinée est un médium qui, évidemment, parle tout de suite plus au sens avec cette alliance du dessin et du texte, mais qui là aussi est capable, dans le cas d'une bande dessinée qui est un roman ou une bonne adaptation d'un roman, de m'entraîner dans un univers sensoriel où, si je connais l'œuvre au préalable, je suis capable d'apprécier l'intelligence de l'adaptation, le parti pris de celui qui a traduit, de même que si j'étais capable de parler grec, je serais heureux de telle traduction de Sophocle par rapport à telle autre. Je viens de lire les Antigones de notre ami Steiner, donc je suis plein de grec en ce moment. Et j'ai, surtout, je suis évidemment bien incapable de lire Sophocle dans le texte, mais je suis content de voir que lui aussi nous dit à quel point on est éloigné de toute façon du texte sophoclien initial. Là, dans l'adaptation d'un roman de Doug Edline, le choix des angles, le choix des couleurs, j'ai l'impression de connaître par cœur ou pas, j'ai l'impression de retrouver le goût de l'adaptation que John Boorman en a fait. Autrement dit, je me projette moi aussi avec mon bagage culturel qui me permet d'apprécier quelque chose qui est bien dessiné. On a l'impression que vous ne parlez que des choses qui sont horriblement dessinées. Un dernier exemple, et vous me pardonnerez parce que je jette tout ça sur la table, un peu dans le désordre, c'est la bande dessinée Logicomics, Logicomix, qui essaye de nous raconter 120 ans de pensée occidentale, de philosophie logique, depuis Bertrand Russell jusqu'à Wittgenstein et les autres. Alors, effectivement, le dessin n'est pas admirable, mais il est très précis. Les personnages sont représentés d'une façon schématique, mais au plus près des personnages réels. Et on essaye de nous passionner pour le roman de ces logiciens qui tous deviennent fous ou presque. Et ça m'a donné véritablement le goût de détester Bertrand Russell, ce que j'avais déjà parce que c'est un gauchiste, mais par contre de mieux connaître deux ou trois autres des logiciens dont on me racontait l'histoire. Et là, le dessin n'était peut-être pas artistiquement parfait, mais en revanche, il était parfaitement ajusté à sa fonction,
oui,
justement, de médiation.
En tout cas, ou d'intrigue. Mais vous voyez, dans ce que vous venez de dire, il y a une chose qui me frappe, c'est que moi, ce que je demande aux grandes œuvres, ou aux œuvres, et à ce moment-là, c'est une pierre de touche, c'est que c'est surtout pas pour me retrouver ou retrouver notre temps. C'est précisément pour creuser l'écart. Vous savez, il y a une phrase que je cite souvent de Schopenhauer, il dit devant un tableau, on doit se tenir comme devant un peintre, on doit se taire et attendre qu'il nous donne ce qu'il a à nous donner et, à la rigueur, nous remettre la parole, mais parce que nous avons la hantise de n'entendre que notre propre voix. Eh bien, moi, c'est ça, c'est cette hantise. En plus, il se trouve qu'en ce moment, je travaille sur Philippe Muret et le catholicisme, mais c'était exactement ça, et c'est ça le rôle du catholicisme, c'est que ça nous donne une idée de l'homme, simplement même sur le plan anthropologique, indépendamment de la foi, qui n'est pas celle dans laquelle nous baignons. Et quand j'ouvre un roman, je ne cherche pas ce qui va me conforter ou ratifier les évidences et les certitudes du présent et celles dont la caverne bourdonne, mais tout au contraire, ce qui me permet de savoir qu'il est d'autres modalités d'existence, et souvent infiniment plus haute, que celle dont nous vivons. Vous voyez, donc moi je ne demande jamais à une œuvre de m'y retrouver. Tout au contraire, je demande, ce processus d'identification me semble proprement contemporain, alors que ce que l'on demandait aux grandes œuvres, c'est de nous élever. Et donc, d'être libéré de soi afin d'être libre, donc libéré de soi, de son petit moi et libéré de son présent, afin d'être libre pour des choses plus grandes, plus vastes que nous. Donc, j'ai l'impression que la bande dessinée ne fait que conjuguer au présent même le passé. Voyez ?
Alors là je suis un peu surpris. Si on ne lisait que de la littérature ancienne ou si on ne lisait que de la philosophie ancienne, vous auriez raison.
Mais elle est ancienne parce qu'elle est intemporelle.
Oui, mais enfin, elle commence par exister avant nous.
Elle existe avant nous, mais elle nous parle de l'humaine type... nature et conditions, sinon elle ne nous intéresserait pas.
Quand vous dites humaine condition, donc on est bien en train de parler de soi. Ce qu'il y a de remarquable dans ces grandes œuvres...
Mais ce qui ne meurt pas sur les saisons, c'est bien qu'il y a des invariants dans la condition humaine.
Voilà. Mais en même temps, on est aussi capable de lire Éric Chevillard aujourd'hui et trouver que c'est un excellent romancier et que dans sa fantaisie, là aussi, j'accède à quelque... J'ai un regard qui est posé sur la réalité, qui me fait découvrir à moi-même justement cette réalité qui pourtant est la mienne et à côté de laquelle j'étais passé. Donc c'est le même goût qu'effectivement qu'en lisant Stendhal
ou Philippe Roth
ou Marcel Aimé,
bien sûr.
Il y a un moment donné où l'auteur présent malgré tout me propose un regard où je me dis c'est absolument incroyable, ce monde qu'il décrit qui est censé être le mien, je le vois d'une manière différente grâce à lui et quand bien même c'est mon présent. Et la bande dessinée, c'est la même chose. Il y a un moment donné, quelqu'un qui, dans la réduction que le dessin opère, dans la réduction que le scénario forcément constitue, vient me parler juste d'une manière différente de percevoir ce que je croyais connaître et ce que je croyais vivre. Et il y a une bande dessinée qui s'appelle Le regard du créateur, là, qui vient de paraître il y a quelques mois sur l'explosion de la navette Challenger. Bon, vous me direz, voilà, c'est pas si vieux que ça. J'ai été tellement enthousiaste de cette bande ciné que j'ai regardé les 4 épisodes d'un documentaire sur Netflix sur l'explosion de la navette. C'était absolument décevant parce que je n'avais droit qu'à de véritables images. Et donc, tout le travail d'intelligence que le scénariste avait mis dans me raconter cette histoire depuis l'actrice qui joue le lieutenant Uhura dans Star Trek et qui est recrutée par la NASA pour faire en sorte de décider les jeunes femmes de s'inscrire dans les programmes spatiaux jusqu'à l'explosion de la navette et au fait que 15 ans plus tard, on est encore en train de repêcher des débris, cette œuvre est une espèce de somme qui d'ailleurs fait quasiment 200 pages. C'est un documentaire et en même temps, c'est une manière de parler de la condition humaine. Il y a un effet rhétorique absolument admirable qui, au fur et à mesure que l'histoire se raconte, il y a de temps en temps des cartels qui expliquent qu'il y a plus que X jours, X heures et X minutes avant l'explosion. Autrement dit, et c'est un effet que seule la bande dessinée permet, c'est-à-dire en même temps que je montre une espèce de faux présent, je suis capable de manifester le futur simultanément. Et donc je trouve qu'il y a dans cette bande dessinée qui effectivement raconte quelque chose que j'aurais très bien pu lire dans un article de journal, que j'aurais pu lire dans un livre, par exemple Les décisions absurdes, qui était paru chez Gallimard, où quelqu'un racontait l'explosion d'un navette Challenger et la façon dont un certain nombre de décisions stupides avaient été prises et s'étaient enchaînées, ou enfin je peux le regarder dans un documentaire Netflix. La bande dessinée, là, est irréductible. Elle a une manière d'attraper une patte humaine et de me la restituer sous une forme unique avec laquelle je suis ou pas en résonance, qui me permet ou non de comprendre et d'adhérer. Mais exactement comme certains romans, Grimmelshausen, qui est censé être un chef-d'œuvre allemand, plein de gens n'y rentreront pas. On cite des grandes œuvres comme si on était tous d'accord sur la bibliothèque idéale, mais en fait, aucun de nous n'a exactement la même. Et certaines œuvres qui étaient canoniques en sont sorties du canon.
Oui, mais là, parce que ce dont vous parlez, c'est une problématique qui m'intéresse pas. Enfin, je veux dire, moi, ça ne mord pas sur moi du tout. Mais bon, donc là, je ne l'écarte pas. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord quand même avec votre relativisme sur les grandes œuvres. Moi, je pense quand même qu'on a une pierre de touche qui est la puissance de connaissance de l'être humain dans ce qu'il a d'irréductible, si vous voulez, c'est la façon dont j'enseigne les œuvres. J'aime la phrase de Marc Fumaroli qui disait « Corneille, c'est l'Académie des sciences politiques et morales à lui tout seul ». Il est vrai que, précisément, moi, quand j'enseigne, c'est la littérature et la philosophie, les problématiques philosophiques au travers de la littérature ou des œuvres de l'art et de la peinture. Donc, si vous voulez, je pense quand même qu'il y a une réduction fatale. Je n'arrive pas, en fait, j'entends tous vos arguments, mais je n'arrive pas à être tout à fait convaincue par le fait que l'expression sous forme de bande dessinée, d'une pièce de Corneille, par exemple, ou des enjeux, disons, ou des enjeux de philosophie politique et morale, la traduction en bande dessinée puisse atteindre à la hauteur d'une pièce de théâtre ou d'un tableau de Poussin.
Je crois que vous avez raison parce que à chaque fois on parle des sommets. Et on dit que la traduction du sommet est effectivement une espèce d'objet de second degré qui n'atteint pas les hauteurs du sommet.
Oui, mais si vous prenez Horace...
Mais c'est Corneille commenté par Fumaroli, évidemment, là, tout de suite, on est un peu au taquet. C'est Rotrou commenté par Poirot Delpech, bon, déjà, on est un peu
oui,
en dessous. Quoi.
Mais si vous voulez, si je mets en regard les Horaces, même de David... la pièce de Corneille, les deux sont complémentaires et les enjeux sont éminemment puissants. David a réussi en une scène à concentrer toute la tension, la polarité des hommes et des femmes dans cette tragédie. Et donc, on a quelque chose qui a une même intensité philosophiques ou d'enjeux moraux et politiques.
Alors, pardonnez-moi, Bérénice, je pense que quand vous regardez David, vous ne le regardez qu'à la lumière de Corneille. Et en fait, et que vous investissez David, et d'ailleurs, ce qui correspond au projet de David.
Voilà, de David, parce que c'est après avoir assisté à une représentation de la pièce qu'il eut le projet de son tableau.
Voilà, et autrement dit, David lui-même...
Mais il a réussi à condenser en une image... quand même ce qui fait
il le condense à vos yeux parce que vous connaissez la pièce. Alors, oui, pour qui ne connaît pas la pièce, je pense que la charge de David est beaucoup moins forte.
Et même, c'est pour ça qu'il y a besoin de médiation.
Et la peinture peut paraître pompière. La question qu'on est en train de poser, c'est est-ce qu'il y a des œuvres de bande dessinée, indépendamment de la traduction, indépendamment de l'adaptation, qui sont capables soit de proposer... une véritable dérivation dans un autre médium qui aurait la force de l'original, à condition qu'on connaisse l'original. Et par exemple, adaptations en bande dessinée de 1984 sont parfois du niveau du roman initial, d'autant plus que le roman initial est plus conceptuellement intéressant que littérairement satisfaisant. Parfois des bandes dessinées qui, en tant que telles, ont une espèce de saveur, de qualité, à la fois littéraire et plastique, qui les hausse, sinon au niveau, effectivement, du Timée de Platon, mais au niveau de tel ou tel autre très bon roman.
Oui, j'ai
l'impression qu'il y a un postulat
d'un
principe.
Bon roman, oui, mais parce que je ne veux pas renoncer, quand je disais au début, remettre la bande dessinée à sa place, la remettre... dans son ordre hiérarchique, c'est-à-dire qu'il y a une échelle, malgré tout, pour moi. Il y a une échelle et elle n'obtiendra pas le plus élevé. Donc, je veux bien qu'on la laisse à sa place, je veux bien qu'on reconnaisse un don du trait, du dessin à certains dessinateurs. Je suis déjà plus réservée sur peut-être l'écriture. Et donc, il est évident que moi, j'accorde une telle place à la langue et à la puissance des mots que je ne peux pas retrouver cela dans... je pense que ce qui me dérange dans ce médium, à la différence de la peinture, c'est de n'être ni l'un ni l'autre ou de vouloir être les deux. C'est-à-dire d'user et du dessin et de la langue.
C'est comme si vous reprochiez à l'opéra de ne pas être du théâtre.
Non, parce que la musique vient renforcer malgré tout. Et regardez, les livrets ne sont pas nécessairement des chefs-d'œuvre. Et la musique vient ajouter.
Là, c'est la même chose. En fait, il y a parfois d'excellents dessinateurs qui ont besoin d'un bon scénariste pour produire un chef-d'œuvre, et inversement, il y a certains scénaristes qui ne trouvent que dans tel dessinateur la parfaite expression de l'idée qui les mène. On a dans la bande dessinée la capacité à articuler des sens qui sont différents selon qu'on regarde une planche muette, mais dont le mutisme succède à des planches qui sont au contraire sonores ou parlées, avec des onomatopées dessinées ou des phylactères. Et justement, c'est une alliance incroyable, avec parfois aussi l'irruption au sein d'une bande dessinée d'un agencement des cases circulaires qui fait qu'on ne sait pas que plusieurs sens de lecture sont possibles. Et ça, ce sont des choses que la littérature n'arrive pas à faire, oui, ou qu'elle n'arrive pas à faire naturellement. Donc, il y a des effets de style qui sont proprement ceux de la bande dessinée. D'accord. Alors, vous me direz, oui, mais pas dans toutes les bandes dessinées. Oui, certainement. Voilà. Chez les meilleurs, meilleurs, ça marche très bien. Chez les moins bons, c'est comme quand on a le déplaisir de lire du Marc Lévy
plutôt que de lire du Marcel Aimé. Et de qualifier cela de littérature malgré tout.
Cette hiérarchie des arts, elle est tout à fait intéressante, et vous avez raison la poser, parce qu'à ce compte-là, on sent que vous mettez la littérature au-dessus de tout.
Oui, parce que je pense que c'est ce dont je ne pourrais vraiment pas me priver, même si je pense que je ne peux pas non plus me priver de la grande peinture. Mais par exemple, il est vrai que je peux davantage me passer de musique classique.
Ben, voilà.
Mais voilà, donc, mais je n'en fais, je m'en flatte pas. Et, mais non, voilà, non, absolument mais,
merci,
pas.
Merci d'avouer vos fautes en direct.
Voilà, non, mais oui, oui, j'en ai même honte. Parce que je sais que je me prive de quelque chose. Mais il est vrai que la nourriture dont j'ai le plus besoin, c'est la grande littérature. Je crois que je ne peux pas passer une journée sans avoir ce plaisir de la langue, du mot qui dit la chose, qui la dévoile, qui la révèle. Bon, pour moi, rien ne... Enfin, c'est vraiment le plus grand bonheur, assurément, de l'existant, enfin, un des plus grands bonheurs que la littérature. Ça, c'est absolument certain. Mais en plus, si vous voulez, j'aime quand même nécessité, enfin pas cette nécessité, en fait cette disposition dans laquelle on se met de se dire il y a une promesse qui est faite et cette promesse elle sera tenue parce que on va vivre dans la lumière du mot et de l'intrigue. Mais je veux bien croire que la bande dessinée puisse à certains réserver des révélations.
Mais voilà, il y a des cases, il y a des planches, il y a des successions qui sont elles aussi illuminantes. J'avais mis de côté deux ou trois critiques. Je suis en train désespérément de la chercher depuis tout à l'heure. Alors il y a évidemment les bandes dessinées comme Madeleine, plus loin qu'ailleurs, ou La Montagne d'encre. Voilà, La Montagne d'encre, c'est une bande dessinée qui est parue chez Dargo, où le dessinateur est en train d'essayer de nous faire comprendre ce que c'est que le Tao, plus ou moins en s'appuyant sur François Cheng. Et c'est une série de planches qui nous montrent une montagne sous la pluie, une pierre en gros plan, trois pollens qui s'envolent d'un pissenlit, huit abeilles, ou au contraire, la planète vue du ciel, avec... cette idée d'essayer de faire comprendre ce qu'est l'être, en fait. Alors, on est un peu loin de Heidegger, mais on est, en revanche, dans une espèce de bande dessinée métaphysique qui s'approche du réel et qui essaye de nous dire, voilà, il y a quelque chose qui sous-tend et la pierre, et le pissenlit, et l'abeille. Il y a une qualité commune. Et
De toute façon, il y a un moment où le concept... est incapable de formuler quelque chose et doit être relayé. C'est toute la grande réflexion de Jean Kelevitch sur la musique, où précisément il faut que intervienne une autre modalité d'expression pour traduire.
C'est la définition du beau par saint Thomas d'Aquin. C'est ce qui permet de comprendre.
Voilà, exactement.
Voilà. C'est la perfection,
la révélation du vrai. Enfin, voilà.
Ce qui permet justement d'éveiller mon intelligence.
Mais si vous voulez, malgré tout. Mais pour quand même justifier le combat qui est le mien contre la bande dessinée, c'est que il y a une véritable propension actuelle à tout retraduire, même pas simplement les grandes œuvres, mais on le disait tout à l'heure, les biographies, l'histoire. Vous comprenez bien que...
Mais c'est même chose. Voilà, on a des séries télévisées sur tout et n'importe quoi, y compris des séries télévisées biographiques. On a l'Odyssée de Christopher Nolan, sur lequel beaucoup de gens se sont déjà exprimés et avec les réserves.
Mais c'est pas la
bande dessinée en tant que telle. C'est d'une manière générale. C'est le mouvement de l'époque au lieu de nous porter au meilleur, à chaque fois, nous propose le succès de l'année.
Et puis, sans doute, quand même, le fait que tout cela était, enfin la bande dessinée ait été promue singulièrement par toute la gauche Jack Languiste.
Je crois que ça
a été décisif quand même. Ces choses-là, c'est devenu leur chose.
C'est surtout, ça a ouvert la porte aux mauvais dessinateurs. Mais de même qu'une partie de l'art non figuratif a permis soit de produire des chefs-d'œuvre conceptuels, parce que justement, il y avait la parfaite expression du conceptuel,
Là, avec le retour du figuratif, mais c'est une victoire à la Pyrrhus, parce que résultat, c'est peut-être du figuratif, mais en réalité, c'est de l'illustratif de toutes les idoles du siècle et de tous les combats du siècle. Donc, de toute façon, le retour du figuratif aujourd'hui, pour moi, c'est une victoire à la Pyrrhus. L'autre qu'on a exposé, là, je n'ai même pas retenu son nom, mais qui a été exposé à Versailles, qu'on nous présente comme l'héritier de Poussin, tout ça pour nous dessiner des batailles de rue. Des batailles de rue, Et alors là, oui, ça pourrait être figuratif, c'est du figuratif, mais c'est pas Nicolas Poussin. Mais si, on nous le présente comme le nouveau Nicolas Poussin. Donc, de toute façon, ça, c'est une mascara. Donc, bon, ça, c'est une parenthèse. Mais c'est quand même très, très préoccupant. Et je voudrais au moins qu'on retienne ça. C'est préoccupant, cette invasion de la forme graphique ou bande dessinée qui s'inscrit malgré tout dans cette puérilité, cet infantilisme contemporain.
Voilà.
Même si je veux bien faire reconnaître à des dessinateurs un talent et une légitimité entière et un véritable statut d'artiste, mais à mon sens, il se compte quand même sur les doigts de la main.
Oui, oui, mais une fois plus, voilà, on dit Poussin, Vermeer, Heidegger et Platon. Là aussi, voilà, combien de littérateurs, de peintres, etc., et de musiciens n'arrivent pas
à... D'accord, mais la bande dessinée jouit quand même d'un statut et connaît une promotion qui est sans précédent. Et surtout, je crois que c'est cet alibi que ce n'est jamais qu'une un médiateur vers des... C'est cela que je veux absolument désarmer, c'est que malgré tout, ça ne sollicite pas les mêmes facultés.
Et on est d'accord. Ceux qui ont vu le film La Guerre des Mondes ne liront sans doute pas La Guerre des Mondes. Et, voilà, et ceux qui ont lu l'adaptation en bande dessinée du film ne liront...
Et même Alexandre Dumas, moi je veux bien qu'ils aient été achetés les Alexandre Dumas, mais je ne suis absolument pas sûre qu'ils le liront du début à la fin. Et alors que ça fasse augmenter les ventes peut-être, après toute la question est de savoir si les œuvres de culture sont un fondement de notre être ou un ornement. C'est ça.
Et si l'école doit nous entraîner à travailler ardiment, à nous muscler la tête, ou
voilà,
au contraire...
Et je vous dis, bon, vraiment, ce passage tout à fait... et puis, vous savez, c'est la phrase aussi sur laquelle Arendt concluait son essai sur la crise de la culture, c'est qu'elle disait, il y a des chefs-d'œuvre qui ont réussi à être sauvés de l'oubli, le seront-ils de leur version divertissante ? C'est-à-dire qu'elle avait très bien vu que, de toute façon, le consumérisme actuel avait besoin de toujours plus de produits. Donc, effectivement, il se saisirait des grandes œuvres et il les traduirait. Alors, elle ne parlait pas encore des bandes dessinées, mais c'était ou en version cinématographique, etc. Elle disait, mais voilà, est-ce que les grandes œuvres vont survivre à leur version divertissante ? C'est là ma grande inquiétude quant à la bande dessinée, plus des aides peut-être qui ont besoin et qui ont les facultés requises.
Et en même temps, qui lisait ces grandes œuvres, c'est-à-dire par rapport aux centaines de millions
de
gens qui sont cultivés.
Là, pour moi, je sais bien cet argument, mais la seule chose, c'est qu'à partir du moment où l'école s'est démocratisée, on aurait dû au moins avoir quand même un élargissement de ceux qui étaient capables d'accéder à ces œuvres. Donc, or, tout l'inverse s'est produit, parce que même les classes... les classes sociales qui étaient censées accéder à ces œuvres, elles n'en sont même plus capables. Donc, de toute façon, même là, on a perdu sur tous les terrains. Donc, je vous accorde tout à fait que ça a toujours été, malgré tout, un petit nombre qui accédait à ces œuvres. Il n'empêche qu'il y a là aussi un échec absolument complet, parce qu'on a perdu, on n'a même pas...
On a perdu. Il nous reste exactement 49 secondes. Bérénice Levet, est-ce que vous avez aimé une bande dessinée dans votre vie ?
Écoutez, je garde simplement le souvenir parce que mon père aimait énormément Astérix. Et donc, c'est peut-être la seule chose que j'ai un petit peu fréquentée. Dire que je les aimais, que je vivais avec ou que je vis avec, non.
Voilà, bon. Eh ben, merci beaucoup pour cet acharnement contre, c'est pas la défense et l'illustration de la bande dessinée, mais cet acharnement contre la bande dessinée. C'était évidemment enrichissant de parler culture avec vous, de parler éducation, de parler transmission et surtout de parler d'exigence intellectuelle. Merci et à très bientôt.
Merci
chers
à vous,
amis.
Richard.
Voilà, demain, ce ne sera pas Arthur de Vatrigan, ce sera une rediffusion et ainsi jusqu'à la fin du mois de juillet. Et restons Vincent Courtois reprendra en août, à fin août. Merci beaucoup et à demain.
Ça suffit maintenant.